DW. L'arbre à palabres.
Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du magazine Sous l'arbre à palabres qui est consacré cette semaine à l'actualité politique au Cameroun et les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Des résultats proclamés le lundi 22 octobre par le Conseil constitutionnel. Des résultats qui consacrent la réélection pour un septième mandat de 7 ans du président sortant, Paul Biya, qui a obtenu, selon les chiffres officiels, 71,28% des suffrages, suivi de très loin par celui qui peut désormais se considérer comme étant la première force politique de l'opposition, Maurice Kamto, crédité de 14,23%. Pour sa toute première participation à une élection présidentielle, Cabral Libi, qui est l'un des plus jeunes candidats, est classé troisième avec 6,28% des voix. Alors, quels sont les principaux enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin? Nous allons en débattre au cours de ce magazine avec nos invités. En ligne de Yaoundé, Joseph Vincent Ntundaye Bodé, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, SOA. Il est aussi directeur du Centre de recherche d'études politiques et stratégiques. Bonjour, monsieur Joseph Vincent Ntundaye Bodé.
Oui, bonjour.
Nous sommes aussi en compagnie de Madame Edith Kabangwala, la présidente du CPP, Cameroun People's Party. Edith Kabangwala avait réalisé une percée inattendue lors de l'élection présidentielle de 2011. Elle était arrivée sixième sur 23 candidats. Alors cette année, elle n'a pas pris part au scrutin du 7 octobre. Bonjour, Madame.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Voilà. Et puis le troisième invité est en ligne de Paris, Maître Edgar Alain Anyengue, qui est juriste, avocat, inscrit au barreau de Paris. Bonjour, Maître Edgar Alain.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Je salue également le professeur Ntundaye Bodé, que j'ai rencontré il y a quelques années à Paris 2 dans le cadre d'une conférence dans le Marais. Il s'en souvient sans doute.
Voilà, message transmis. Vous vous en souvenez, professeur Eboudé?
Oui, je me rappelle. Merci.
D'accord.
Salutations également.
Merci. À l'animation de ce débat, Éric Topona.
DW. Le monde à votre portée.
Les résultats proclamés ce 22 octobre 2018 par un conseil constitutionnel dont la crédibilité et l'impartialité ont été mises à mal lors du contentieux électoral ne traduisent nullement la volonté du peuple camerounais souverain. Au regard de ce qui précède, nous rejetons solennellement et catégoriquement ces résultats fabriqués et refusons de reconnaître la légitimité du chef de l'État ainsi désigné par ses obligés et non par les électeurs camerounais.
Voilà, à l'instant, Maurice Kamto, qui est donc arrivé deuxième à l'issue de cette élection présidentielle avec 14,23% des voix. On vient de l'entendre, Maurice Kamto estime que les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel ne traduisent pas la volonté du peuple camerounais. Est-ce que c'est votre point de vue, Madame Edith Kabangwala?
Je crois que la très grande tristesse pour le Cameroun, c'est que depuis notre indépendance, 58 ans plus tard, nous n'avons pas réussi à organiser une élection crédible. Alors, quel que soit le résultat d'une élection, il y a des perdants, il y a des gagnants, mais l'essentiel est que tous les participants, donc tous les citoyens d'un pays, puissent dire on a joué franc jeu, il y avait des règles claires, il y avait une transparence, il y avait un fair play et nous avons participé et le résultat reflète ce que la majorité des citoyens...
Mais est-ce que c'est le cas? Maurice Kamto estime que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit.
Il est parmi des millions de Camerounais qui le considèrent. Même au sein du RDPC, le parti qui a gagné, il y a une multitude de personnes qui considèrent qu'il y a eu des fraudes. Ce qui est extrêmement triste pour le Cameroun aujourd'hui, c'est que Paul Biya, qui est déclaré comme vainqueur, n'a pas de légitimité, n'a pas de crédibilité et n'a pas... voilà.
D'accord. Alors, je vais voir ce qu'en pense le professeur Joseph-Vincent Toundaï-Bodé. Paul Biya, le président réélu, est-ce qu'il a la légitimité?
Vous ne serez pas surpris que je prenne le contre-point de vue de ma sœur de Douala, tout simplement parce qu'une élection a un avant, un pendant et un après. Lorsque vous avez suivi et accepté l'avant, vous devez accepter le pendant et l'après. En outre, lorsque vous contestez les résultats, vous ne pouvez pas au début vous proclamer vous-même président et après vous portez quand même plainte. Et lorsque vous êtes débouté parce que vous êtes sorti du corps du délit pour faire plus ou moins la propagande politique pendant...
Vous faites allusion à Maurice Kamto.
Oui, bien évidemment. Qui est un professeur de droit, qui a été mon chef à soi, vous considérez, normalement, vous portez plainte sur un objet et pendant le procès, vous parlez de cet objet. Parce que dès que vous sortez de cet objet, le juge devant qui vous avez porté plainte n'est même plus compétent.
Alors, oui, mais le problème est que Maurice Kamto estime que le Conseil constitutionnel est aux ordres. Nous allons y revenir tout à l'heure dans le courant du magazine.
Ce n'est pas pour ça qu'il a porté plainte.
Voilà, nous allons y revenir. Je vais peut-être laisser réagir Maître Edgar Alain Anyengue. Vous êtes à Paris, vous suivez l'actualité politique du Cameroun, votre pays. Quel est votre point de vue? Paul Biya a-t-il gagné à la loyale?
Évidemment, je me place du point de vue strictement juridique. Quand j'entends dire qu'il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de crédibilité, effectivement, quand les règles du jeu sont fixées dès le départ, il est difficile de les contester ultérieurement. Ce qui compte et ce qui doit être retenu, à mon sens, dans cette affaire, c'est que l'élection présidentielle, comme beaucoup d'élections, comme souvent dans les élections présidentielles, on conteste toujours le mode de scrutin. On conteste la façon dont les opérations électorales se déroulent. Mais une fois que les règles du jeu sont acceptées, et je dis bien du point de vue strictement juridique, la légitimité, elle est acquise.
Oui, donc l'opposition n'aurait pas dû. Oui, l'opposition n'aurait pas dû accepter d'aller à ce scrutin dans ces conditions, hein, c'est ça?
En tout cas, il y a déjà ce qui me frappe, c'est cette espèce d'impréparation, parce que quand vous allez vous préparer une élection présidentielle, vous ne la préparez pas en quelques mois, vous ne la préparez pas en un an. Il faut plusieurs années pour préparer une élection. Vous allez sur le terrain, vous allez vous imposer, mais surgir quelques mois avant l'élection et espérer avoir un bon résultat, évidemment, on l'a vu, hein, on a vu le cas de la France et encore récemment, mais c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours.
D'accord.
Sur le plan strictement juridique et sur le plan strictement légal, on peut contester la légitimité du Conseil constitutionnel. Et ils ont eu, je crois, tous les moyens de... Ils ont déposé des recours, les recours ont été examinés, ils ont eu le temps de débattre. Et à la fin, quand même, le Conseil s'est prononcé. Sur le plan, encore une fois, strictement légal, il n'y a rien à dire.
D'accord. Alors, Edith Kabangwala, je le rappelais, vous étiez également candidate à la présidentielle de 2011. Vous aviez, à l'époque, également contesté cette élection. Vous estimez qu'il y a eu beaucoup de fraude. Et les deux intervenants estiment que les candidats de l'opposition n'auraient peut-être pas dû accepter d'aller à cette élection dans ces conditions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, dans ce que j'appelle les dictatures électorales, c'est que et le Cameroun, quand une dictature a réussi de faire de l'élection un instrument qui conserve son pouvoir, l'opposition est toujours en très mauvaise situation. Personnellement, moi-même et mon parti, nous avons décidé de ne pas participer à cette élection Parce que les règles sont mauvaises. Les règles sont extrêmement mauvaises. Alors, quand j'entends le panéliste de Paris qui a bien quitté le domaine juridique pour commenter notre vie politique au Cameroun, à dire on ne prépare pas une élection en quelques mois, je ne sais pas de quoi il parle. Les candidats à cette élection sont sur la scène en dehors de quelques heures, sont sur la scène depuis des années. Et on les voit bien préparer l'élection depuis des années. Mais il faut comprendre qu'au Cameroun, je vous donne quatre points clés. Le premier, c'est qu'il y a une restriction des libertés politiques fondamentales. Quand vous êtes un parti politique de l'opposition, pour tenir n'importe quelle réunion publique, vous avez besoin de l'accord du gouvernement. Ce qu'ils donnent quand ils veulent, comme ils veulent, et qu'ils retirent quand ils veulent, comme ils veulent. Parfois, vous avez déjà commencé une réunion et ils viennent interrompre la réunion. Donc, il faut savoir dans quelles conditions l'opposition travaille, dans des conditions où la liberté politique fondamentale est extrêmement étroite. De deux, nous avons un système électoral où le Conseil constitutionnel devant lequel le contentieux était mené à 11 membres. 10 sont des membres du RDPC, 10 sont des membres du parti de M. Biya. Et tous les 11 sont nommés par M. Biya. Vous avez ELECAM, qui est l'organe qui organise les élections sur le plan opérationnel. ELECAM, le conseil d'ELECAM est à 80% composé des membres du RDPC. On va me dire, ils ont démissionné, mais ils ont démissionné le soir de leur élection, de leur nomination. Ensuite, vous avez le ministère de l'administration territoriale. Il s'avère, pour cette élection, par exemple, que le ministre de l'administration territoriale, à sa nomination, nous a dit qu'il répond à une seule personne, pas à des lois, pas à la constitution de la République du Cameroun, mais à une seule personne qui est M. Biya. On a vu ce ministre, pendant cette élection, confondre totalement sa fonction de ministre.
Vous parlez de Paul Atanganji, c'est ça, le ministre de l'administration.
Voilà, avec celui, il confond tout le temps sa fonction de ministre avec celui de militant du RDPC qui l'est. Donc on a un militant du RDPC qui supervise les élections, on a des militants du RDPC qui organisent l'élection sur le plan opérationnel, on a des militants du RDPC qui règlent le contentieux.
Voilà, excusez-moi de vous couper.
De quoi est-ce qu'on parle là? Et on ne peut pas me dire, le problème pour l'opposition c'est que, en anglais on dit « you're damned if you do, you're damned if you don't ». Moi je ne suis pas y allée. Mais c'est pas parce que je suis pas y allée que M. Paul Biya n'a pas gagné. Ouais. Les autres sont allés, et c'est pas parce qu'ils sont allés que M. Paul Biya n'a pas gagné. Donc il faut bien qu'on comprenne dans quelle situation on se retrouve.
Voilà.
Et au lieu de parler des règles qui sont complètement inacceptables, inadmissibles partout dans le monde, il faut arrêter de parler de l'opposition.
Voilà. Merci pour cette réaction, Madame Kabangawala. Pour parler des stratégies de l'opposition, nous avions interviewé juste après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le candidat qui est arrivé troisième, Cabral Libi, et voici ce qu'il en pense.
Je vous l'avais dit déjà, il y a quelques semaines, que le plus difficile en 2018 ne serait pas de battre Paul Biya, mais de le démontrer. Bon, cela demande une organisation logistique que j'ai proposée à tous les autres candidats de l'opposition, et ils n'ont pas voulu m'écouter. Ce qui les préoccupait, c'était de faire des coalitions d'individus, non pas des coalitions stratégiques.
Mais parlant de coalition, si vous y avez désigné un seul candidat, peut-être que le score aura été différent, non?
Pas du tout, parce que vous pouvez désigner un seul candidat. Tant que vous n'avez pas de représentant dans le bureau de vote, la victoire de ce candidat, si jamais elle échoue, sera toujours travestie par la fraude. Quand vous voyez là le pourcentage affecté à l'opposition, on vous dit que Paul Biya seul à 71%, ça veut dire que toute l'opposition rassemblée à 29%. Ça veut dire que même si cette opposition n'avait eu qu'un candidat, il aurait donc à ce jour 29%.
Voilà, Cabral Libi arrivé troisième avec 6,28% des voix. Maître Edgar Alain Nyengue, une réaction aux propos tenus par Cabral Libi.
Je vois beaucoup de lucidité dans ce qu'il dit. Il faut bien comprendre les choses. Je ne nie pas la difficulté de s'exprimer. Je ne nie pas la difficulté d'exprimer la contradiction dans un pays qui est majoritairement RDPC. Il y a pas de difficulté sur ce point. Mais je note, c'est un point de vue, une certaine impréparation. C'est en tout cas ce qu'il m'est apparu.
Oui, ils auraient dû désigner un candidat unique, l'opposition.
Désigner un candidat unique, oui, c'est déjà une façon de lutter, c'est déjà une façon de... Parce que là, quand même, quand vous voyez la dispersion des voix, elle est extraordinaire. Vous avez beaucoup de candidats, vous avez beaucoup trop de candidats pour une personne qui est bien implantée sur le terrain, qui connaît le terrain, qui laboure le terrain, voilà. C'est ça un des problèmes. Parce que si vous avez un seul candidat, bah oui, évidemment, vous multipliez les chances de gagner. Mais quand vous avez dans l'opposition plusieurs candidats, il y a déjà une dispersion des voix qui est normale et qui est naturelle.
Ok. Joseph Vincent Tunda Ebodé, hein, Cabral Libi le reconnaissait. Les candidats de l'opposition auraient dû mieux s'organiser en désignant des délégués dans les bureaux de vote. Vous avez le même sentiment?
Je crois que c'est la clé de la compréhension des systèmes politiques. Tant que vous n'êtes pas là où on vote, vous ne pouvez pas venir dire ni que vous avez gagné, ni que vous n'avez pas gagné. Si on revient au procès, la seule chose qu'on a demandé au candidat Kamto, comme il disait qu'on a fraudé, de montrer donc si les PV, là où il y a eu les décomptes de vote, c'est-à-dire les décomptes de vote se font là où il y a eu le vote, au bureau du vote, au moment de la clôture, s'il a ces PV-là et si ces PV sont différents des PV qui ont été déposés, dans l'administration, il a été incapable de produire ses PV pour une raison simple. Il fallait au moins 25 000 individus pour représenter son parti seul. Et lui n'a fourni que 5 000. Il était donc difficile que, à peine les bureaux clos, lui puisse déjà dire qu'il a gagné. Vous comprenez que c'est quand même... Je comprends qu'ils font la politique, mais lorsqu'on doit analyser de manière froide, ils n'ont raison ni du point de vue purement de la science politique, ni du point de vue purement du droit.
Mais vous reconnaissez quand même, professeur, qu'il y a eu...
Du point de vue de la politique.
Oui, mais vous reconnaissez, tout de même qu'il y a eu des irrégularités. Hein. Tout à l'heure, Madame Kabangwala disait que même certains membres du RDPC en privé reconnaissaient l'existence d'irrégularités.
Comment vous voulez que j'aille savoir ce que les gens ont dit en privé? Je peux dire qu'a priori, on ne peut pas dire qu'il ne puisse pas avoir une inégalité quelque part, mais sans que j'aie la preuve. La justice décide sur la preuve.
Oui, mais que peut-on attendre d'un conseil constitutionnel composé majoritairement des pontes du RDPC?
Est-ce que ce que le conseil constitutionnel attendait que le candidat qui a porté le contentieux devant lui, c'est-à-dire le PV, qu'il le produise et qu'il a produit? Et qu'après, le conseil lui a donné tort. Le conseil aurait même pu le débouter puisqu'ils ont pris 2 jours à faire plutôt de la propagande politique au lieu d'entrer au fond du procès. Or, le conseil les a laissés parler pendant 2 jours alors qu'ils étaient complètement hors sujet pour revenir au sujet même, c'est-à-dire les opérations électorales seulement à la fin. Donc, si le conseil leur était défavorable, a priori, il aurait pu l'être. En outre, c'est le même conseil qu'il a qualifié pour être candidat. En ces temps-là, pourquoi il n'a pas dit que le conseil était partisan?
À 85 ans et après 36 ans de règne, le président Biya va donc effectuer un nouveau mandat de 7 ans. Beaucoup pensent que la classe dirigeante est en train d'être renouvelée avec l'émergence de nouvelles têtes comme Maurice Kamto, Cabral Libi. Mais sur le fond, le système Biya reste intact. Est-ce que vous avez le même sentiment, Madame Edith Kabangwala?
Non seulement le système Biya est intact, mais encore, ce qui est très grave, moi je suis ahurie devant ces deux juristes qui sont sur ce panel et qui me disent, or que dans un simple cas de droit, si un juge a une affinité avec l'une des parties prenantes, il doit se recuser. Alors eux, ils ont face à eux un conseil constitutionnel dont 10 membres sont des membres du RDPC et ils disent voilà, ça c'est, y a aucun problème avec ça, ils auraient dû apporter les PV, etc. C'est quand même c'est tellement étonnant.
Mais vous pensez que les candidats de l'opposition ont apporté des preuves devant le Conseil constitutionnel?
Non, écoutez, il faut qu'on arrête avec ça. Un système électoral est supposé fonctionner. Le travail de l'opposition n'est pas justement cette idée de que chaque candidat à l'élection présidentielle doit mobiliser 25 000 personnes le jour du vote pour contrôler le vote est d'une absurdité incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'on me dit ça. Pourquoi vous ne faites pas ça en France, là où l'autre juriste est? Est-ce que dans chaque bureau de vote, il y a des personnes représentant chaque membre de... Le système électoral est supposé fonctionner. Ce n'est pas le travail de l'opposition.
Oui, je vais laisser Maître Edgar...
Régler la fraude dans le système. Réglons la fraude.
Oui, je vais laisser Maître...
Réglons le problème principal, là où vous parlez de candidat unique. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas une élection à deux tours. Ce qui est demandé à M. Biya depuis plus de 30 ans. Mmh. Il faut qu'on arrête avec ça, de donner la responsabilité à l'opposition de régler un système qui est complètement dysfonctionnel.
Voilà, excusez-moi,
c'est pas
maître...
la responsabilité de l'opposition.
Oui, excusez-moi, Kabangwala, je vais laisser réagir Maître Edgar Alain Inyenge. Allez-y.
Voilà, justement, le nœud du problème. Le nœud du problème dans cette affaire, c'est qu'on a affaire à une contestation spéculative. Je comprends très bien quand vous dites une élection, on n'est pas obligé d'avoir 25 000 candidats dans chacun des bureaux de vote, mais il faut comparer ce qui est comparable. Si vous ne vous donnez pas les moyens, de la protestation qui était mise, bah, évidemment, votre protestation, elle est difficile à croire, elle est difficilement prouvable devant le tribunal qui a été saisi, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. La contestation est évidemment spéculative. Si vous avez que 25 000 procès-verbaux que vous pouvez présenter et que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans les 20 000 autres bureaux de vote, c'est difficile. Et dans un cas comme celui-là, à la fois ce que vous dites, et c'est pour ça que je parle de contestation spéculative, que vous dites n'a pas de preuve non plus. Mm. C'est-à-dire, j'ai un raisonnement vraiment strictement juridique.
Oui, excusez-moi, Maître Edgar Alain.
Matériellement, vous ne pouvez pas contester une élection si vous ne pouvez pas prouver qu'il y a fraude à cette élection-là.
Oui, Maître Edgar Alain Yengue, est-ce que vous ne trouvez pas logique, hein, comme l'a relevé tout à l'heure Madame Kabangwala, qu'il faille quand même réformer le système électoral au Cameroun, qui est désuet?
Je suis tout à fait d'accord. Une élection à un tour n'est pas satisfaisante. Il faut être sérieux. Une élection à un seul tour n'est pas satisfaisante. On est d'accord. Mais je dis aussi, l'opposition, devant les difficultés qu'elle éprouve, qui sont des difficultés réelles, les difficultés à s'exprimer, les difficultés à s'épanouir politiquement. Ils auraient pu s'organiser différemment. S'ils ne peuvent pas avoir 25 000 bureaux de vote, mais qu'ils s'organisent, chacun des candidats délègue des personnes pour surveiller le déroulement des opérations de vote dans les bureaux de vote. Et ils auraient pu couvrir les 25 000 bureau de vote.
D'accord.
Alors, aurait résolu le problème. Donc, il faut quand même un minimum d'organisation aussi entre eux.
D'accord. Alors, professeur Joseph Vincent Toundaye-Bodé, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faille désormais tirer les leçons de toutes ces insuffisances et reformer le système juridique, le système électoral au Cameroun?
Bien évidemment que oui. L'une des, si vous voulez, des observations après une élection, c'est qu'on tire les leçons. On tire les leçons sur ce qui a bien marché, on tire les leçons sur ce qui a mal marché, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, ou de l'opposition du pouvoir ou de l'administration. Ça, je crois que c'est ce qui débouche sur la réforme. Mais il faut aussi reconnaître que si vous voyez la montée en puissance du candidat Cabral, lorsqu'il s'est engagé en campagne avant tout le monde, son mouvement c'était 11 millions d'inscrits. Les autres n'ont même pas fait la campagne pour demander à ceux qui étaient supposés être leurs militants de s'inscrire. Et nombreux ont passé le temps à être des militants et des inscrits virtuels, soit dans Facebook, soit dans WhatsApp. Et le moment du vote, lorsqu'il a fallu voter, ils se sont rendus compte que ces gens-là n'avaient pas de carte. Vous voyez donc que même si on faisait l'élection aujourd'hui à deux tours, c'est même pas sûr qu'ils auraient pu battre le RDPC, puisque lorsque vous prenez l'ensemble des militants du RDPC et la campagne pendant deux ans pour le RDPC consiste à faire et à s'assurer que tous ces militants ont une carte d'élection. Pendant ce temps, les autres ne le font pas. C'est pour ça que je suis d'accord avec notre confrère de Paris lorsqu'il parle quand même d'une certaine impréparation. Et il faut aussi, lorsqu'on veut réformer, que l'opposition elle-même reconnaisse ses erreurs et prenne en charge ses erreurs pour les arranger. Parce que vous ne pouvez pas ne pas être dans les bureaux de vote et savoir ce qui s'est passé dans ces bureaux de vote. Ma sœur de Douala parlait du système électoral. Moi, j'ai assisté aux élections en France. Et oui, en France, vous avez les membres du parti dans les bureaux de vote. C'est peut-être en Amérique du Nord que je ne sais pas comment ça se passe, mais en France, vous avez les membres des partis dans les différents bureaux de vote.
D'accord.
Parce que le parti fait un travail différent de l'administration. Vous avez vu qu'elle a accusé tout à l'heure l'administration. Si vous enlevez les partis, il reste donc l'administration. Or, l'administration sera aussi suspectée. Si vous enlevez l'administration, il reste l'ECAM, l'organe en charge d'organiser. C'est déjà aussi suspecté. Alors, la seule preuve pour que, lorsqu'il y a contentieux, on puisse tomber d'accord, c'est que tout le monde soit représenté là où le dépouillement se passe.
D'accord. Alors, Madame Edith Kabang-Wala, est-ce que l'opposition ne doit pas aussi opérer une sorte de... essayer de tirer les leçons de toutes ces échecs pour éventuellement opérer une mue?
Écoutez, pour nous, au niveau du Cameroun People's Party que je représente, nous, on a tiré nos leçons depuis 2011. Le professeur Touda Ibodé vient de le dire. Quand vous allez en campagne contre M. Biya, vous allez en campagne contre Paul Biya, le RDPC, et les CAM, le Conseil constitutionnel, la CRTV qui est le média de l'État, l'administration qui est avec lui. Et nous, on estime que ça, c'est la définition même d'une dictature. Et comme je dis, le Cameroun, c'est une dictature électorale et on ne démonte pas une dictature avec des élections. On démonte une dictature avec, de préférence, l'action non violente massive du peuple, comme ça a été fait au Burkina, comme ça a été fait en Tunisie, comme ça a été fait en Ukraine et dans plusieurs pays dans le monde. Donc pour nous, aujourd'hui, nous estimons qu'on ne va jamais battre Paul Biya aux élections. Il refuse les réformes du système électoral depuis 30 ans. Il n'a pas fait de réforme depuis 30 ans, on demande les mêmes choses, les élections à deux tours, le bulletin unique qui ne permet pas de frauder, ramener l'âge de vote à 18 ans. Au Cameroun, vous pouvez aller en guerre pour votre pays à 18 ans, mais vous ne pouvez pas voter pour la personne qui va vous envoyer en guerre. C'est des aberrations. Donc, pour nous, aujourd'hui, le défi des Camerounais est celui de s'organiser dans des mouvements de protestation. Et M. Edja, je ne sais pas quand est-ce qu'il est la dernière fois qu'il était au Cameroun. Moi, je peux vous dire, je n'étais pas candidate à l'élection présidentielle. Je n'ai pas appelé à des protestations de ces élections, mais j'étais en résidence surveillée complètement illégal toute la journée de dimanche.
Vous avez été placé sous résidence surveillée, pourquoi?
Ils ont imaginé, et c'est tout ce qu'il faut au Cameroun, ils ont imaginé dans leur tête que je pourrais faire partie des protestations. J'étais restreint à rester dans ma maison toute la journée, il n'y avait aucun mandat, il n'y avait aucun bout de papier, il n'y avait rien. Quand j'ai demandé à la trentaine de policiers qui étaient en dehors de ma maison, armés, avec gilets pare-balles, avec des casques, quand je leur ai demandé « mais qu'est-ce que vous faites là ?», leur seule réponse, c'est « Madame, nous avons reçu des ordres ». Voilà le Cameroun.
D'accord.
Voilà le Cameroun dans lequel vous demandez à des opposants de mieux s'organiser, d'avoir ceci et de cela. Voilà la réalité du Cameroun. Et tant qu'on n'a pas débouté cette dictature et réorganisé, passé par une transition politique pour réorganiser nos institutions, y compris le système électoral, on ne va pas s'en sortir.
Voilà, merci beaucoup, hein, Madame Edith Kabangawala. Vous parlez tout à l'heure de transition politique. Hein, je reprends vos mots. Est-ce qu'il ne faudrait pas, hein, au-delà donc des leçons à tirer hein, de cette élection présidentielle, préparer l'après Paul Biya, parce que voilà, il est âgé de 85 ans après 36 ans à la tête de l'État. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà penser à l'après Biya, hein, au terme d'une transition politique, hein, Maître Edgar Alain?
Bah oui, évidemment, personne n'est éternel. Je vais quand même répondre pour préciser ce que je disais tout à l'heure. Je dis encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis, je suis conscient des difficultés que rencontre l'opposition au Cameroun, mais je suis avocat et lorsque je suis confronté à une difficulté, je me donne les moyens de contourner l'obstacle qui m'est opposé. Il faut que l'opposition au Cameroun se donne les moyens de ses ambitions. C'est tout. Si vous avez des règles du jeu que vous estimez ne pas être équitables, trouvez les moyens de contourner l'obstacle qui s'oppose à vous. Mais si vous présentez, je dirais, en victime résignée, parce que lorsque vous allez en rang dispersé, vous vous présentez en victime résignée. Et là, vous n'avez aucune chance.
Oui, mais le fait d'empêcher, par exemple, des opposants de manifester, c'est contraire aux règles universelles de droit.
Évidemment, mais lorsqu'on parle de d'une manifestation, c'est une question, et je maintiens toujours, du point de vue strictement juridique, c'est du maintien de l'ordre. C'est du maintien de l'ordre. Lorsque vous avez une manifestation, vous devez obtenir une autorisation pour manifester.
Oui, mais dans le même temps, le RDPC...
Ça permet à la police d'encadrer les manifestants. Ça permet aux agents de police d'assurer la sécurité de ceux qui veulent manifester. Parce que la manifestation, c'est l'expression de la liberté.
Oui, mais dans le même temps, les militants du RDPC manifestent comme ils l'entendent. La CRTV, comme le disait Mme Edith Kabangawala, est à la dévotion du RDPC et de son président national. Dans une démocratie, il faut quand même équilibrer les rôles, non ? Donner la parole à tout le monde.
Bah oui, bien sûr. Je vous ai dit, je n'ai jamais nié. Hein. Je dis il y a un déséquilibre qui est nécessaire. Il est nécessaire de rétablir un certain équilibre. Mais l'opposition, dans une posture strictement de protestation et de résignation, n'arrivera à rien.
Voilà,
Il faut prendre l'initiative, il faut agir. Et non pas simplement subir et réagir.
Oui, donc c'est pourquoi il faut préparer l'après Paul Biya, n'est-ce pas ?
Une transition politique. Il faut se préparer. Bah là, vous avez 7 ans, 7 ans avant, 7 ans après, 7 ans maintenant. Il faut se préparer. Il faut se préparer longtemps à l'avance. Il faut labourer le terrain. Il faut s'imposer. Il faut que ça devienne évident.
D'accord.
Alors, ça devienne évident.
Oui, professeur Joseph Vincent Tunda Ebodé, il faut aussi préparer l'après Paul Biya, après 36 ans au pouvoir, plus 7 ans, une transition politique est nécessaire ?
Tout dépend de ce qu'on entend par transition. Mais ce qui est certain, c'est que comme a dit mon confrère, personne n'est éternel. Je crois que chacun se prépare à sa manière. Et ceux qui veulent faire la politique doivent se préparer à comment assurer la survie du système politique après lui. Donc, c'est pour cela que nous pensons que d'une manière ou d'une autre, l'opposition doit être responsable et reconnaître ses limites pour améliorer ses performances. Elle ne peut pas passer tout le temps à se plaindre des erreurs du pouvoir. Je crois que pendant l'élection, tous les partis ont fait leur campagne. C'était dans le même état. Le problème, c'est que certaines personnes de l'opposition, des fois, pensent que être membre d'un parti politique ou leader d'un parti politique signifie jouer là où il n'y a pas un État, quel que soit le pays, c'est l'État qui met les règles. Voilà pourquoi je reviens sur ce que j'ai dit au début. L'essentiel, c'est que, comme ce sera toujours un pouvoir qui va mettre sur pied un conseil constitutionnel ou une cour constitutionnelle, qui disposera d'une administration qui mettra sur pied un ELECAM et qui lui-même sera encadré par un parti politique, il faut, pour assurer la crédibilité des votes de manière incontestable, premièrement que chaque parti s'investisse pour inscrire sur les listes électorales ses militants. Deuxièmement, que l'ensemble des partis s'organise pour avoir, lorsqu'il y a vote, des représentants dans les bureaux de vote.
Oui, mais il faudrait que le pouvoir ouvre aussi le jeu politique, puisque
Non, le jeu politique est ouvert. Je vous ai dit que moi, je ne fais pas la politique. Je comprends que les acteurs politiques, parce que c'est ça aussi leur rôle, même si c'est ouvert, ils disent que c'est à moitié ouvert.
Mais le fait d'empêcher des manifestants de l'opposition, le fait d'empêcher des militants de l'opposition de manifester alors qu'on autorise les militants du RDPC, c'est quand même une injustice, hein.
Non, ça, c'est ce que quelqu'un te dit. Je ne crois pas que depuis que le multipartisme est revenu au Cameroun dans les années 90, il n'ait jamais eu de manifestants, de manifestations. Le problème, c'est est-ce qu'on a suivi la procédure pour déclarer la manifestation? Ou alors, quel est l'objet de la manifestation et le lieu? C'est ça que l'administration regarde. Mais il est absolument faux de dire qu'il n'y a eu aucune manifestation au Cameroun depuis qu'on est revenu au multipartisme.
D'accord.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le langage politique. Moi je suis politologue, donc je le comprends, parce qu'il ne faut pas qu'ils répètent absolument ce que le pouvoir dit, on ne va pas voir la différence.
Oui.
Mais quand nous on doit intervenir, si je ne réponds pas à la cause d'un parti politique, je dois quand même essayer d'être neutre dans l'affaire.
Oui. Vous écoutez le magazine Sous l'arbre à palabre, c'est sur les antennes de la Deutsche Welle. Nous acheminons tout doucement vers la fin de ce débat. Nous allons peut-être très rapidement aborder l'aspect lié à la crise dans les deux provinces anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, Madame Edith Kabang-Wala, on a comme l'impression que cette crise a été éclipsée par l'euphorie de l'élection présidentielle et des résultats. Est-ce qu'il ne faudra pas peut-être reprendre les choses en main pour trouver une solution?
Absolument. Et juste avant de répondre à ça, je constate que j'ai deux juristes sur le panel qui trouvent que c'est absolument normal de séquestrer quelqu'un dans sa maison sans mandat, sans un bout de papier et sans l'accuser de quoi que ce soit. Et c'est tout à fait normal pour eux d'avoir 30 policiers devant la maison d'une leader politique. Ça ne leur pose aucun problème. Maintenant, pour revenir à la zone anglophone, au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, la deuxième raison pour laquelle ma formation politique n'est pas allée à ces élections était justement parce qu'on estimait qu'il était inacceptable d'organiser même des élections dans une situation où des millions et des millions de Camerounais n'étaient pas en position d'exercer leur droit de vote, soit parce qu'ils sont des réfugiés, soit parce qu'ils sont des personnes internes déplacées, soit parce qu'ils sont terrorisés d'un côté par l'armée camerounaise et de l'autre côté par des groupes armés qui sont en train de lutter pour l'indépendance.
Oui, est-ce qu'il ne faudrait pas soutenir l'initiative prise par le cardinal Ntoumi? Il compte organiser en novembre une conférence à Buea pour justement tenter de résorber cette crise.
Alors, je peux vous dire que le mouvement dont je fais partie, Stand Up for Cameroun, nous soutenons complètement cette initiative et personnellement, je suis impliquée à soutenir l'organisation de cette initiative. D'accord. Encore une fois, le problème est au niveau du gouvernement qui, dans un premier temps, a réagi très négativement par rapport à cette initiative, on ne comprend pas pourquoi, et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas donné une réponse officielle à la demande du cardinal et des autres autorités religieuses qui étaient de créer les conditions pour la tenue de cet événement. D'accord. Nous avons un maire à Boya qui a dit sur les antennes des médias que lui, il interdisait la tenue de la conférence, même si c'est Paul Biya qui lui demandait de le faire.
D'accord.
Donc voilà le Cameroun.
Voilà. Merci beaucoup, Edith Kabang. Voilà, nous nous acheminons, comme je l'ai dit, vers la fin du magazine. Je vais donner rapidement la parole à Maître Edgar Alain Anyengui. Est-ce que vous soutenez l'initiative prise par le cardinal Ntoumi pour organiser une conférence en novembre?
Tout ce qui est pour la paix, j'approuve absolument tout ce qui est pour la paix. Je vais vous dire quand même, madame, je suis avocat, je suis plutôt protecteur des libertés, je fais beaucoup de droit pénal. Vous savez, je vais vous le donner, le titre de ma thèse de doctorat, parce que je suis docteur. Arrestation, détention et droits de l'homme. C'est ça le titre de ma thèse. Et c'est quelque chose qui m'a occupé pendant 7 ans. Donc vous ne pouvez pas, je ne peux pas être soupçonné de non-sympathie pour tout ce qui est liberté et droit de l'homme. Non, ce n'est pas normal de séquestrer quelqu'un. Et je ne l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit. Je disais simplement que je me place du point de vue strictement juridique. Évidemment, oui, toutes les initiatives qui tendent à la pacification, toutes les initiatives qui tendent à apaiser les tensions sont des initiatives salutaires. Et je crois que c'est ce qu'il faut parce que une guerre, on sait, l'a commencé, mais la terminer, c'est toujours beaucoup plus compliqué.
Oui, est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir de Yaoundé est favorable à un règlement pacifique de ce conflit ou de cette crise?
Au-delà du pouvoir, je pense que c'est l'opinion des Camerounais elles-mêmes qui est intéressante et je ne crois pas que les Camerounais aient envie qu'il y ait une déflagration ces temps-ci au Cameroun.
Ok. Alors, professeur Joseph Vincent Ntoundaye Boudé, vous allez donc clore ce débat. Est-ce que vous soutenez l'initiative du cardinal Ntoumi, qui compte organiser en novembre une conférence concernant la résolution de la crise dans ces deux provinces anglophones?
Moi, j'ai répondu à cette question publiquement. Ici, c'est connu au Cameroun et j'avais répondu par non. Non, d'abord parce que le cardinal, avec un certain nombre de personnalités religieuses, avait été plus proche de ce mouvement au début et dans la théorie de la négociation.
Mais lui soutient le fédéralisme.
Il apparaît donc comme acteur et il ne peut donc pas être acteur tout en étant médiateur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, son initiative s'appelle All Anglophone Movement. Donc, dans la structuration chronologique, c'est la troisième fois qu'on organise ce type de conférence au Cameroun. Deux avaient eu lieu avant même qu'il y ait cette crise. Or, quel est le problème? Le problème, c'est que anglophones et francophones ont des difficultés de coexister. Et lorsque c'est un problème qui oppose ou qui gêne les deux communautés, vous ne pouvez donc pas faire une conférence qui ne porte que sur une seule communauté. Ça, c'est un repli identitaire. Ma perspective, c'est que c'est un problème entre anglophones et francophones dans leur cohabitation.
Oui, mais
on les met ensemble tout en sachant qu'ils habitent un État. Ça devrait donc vous donner des représentants francophones, des représentants anglophones et l'État. Ça permet de défendre les intérêts spécifiques des anglophones, les intérêts spécifiques des francophones, l'État jouant un peu l'intérêt, si vous voulez, national. Mm. Voilà ma perspective et c'est la principale raison pour laquelle moi, je n'ai pas soutenu l'approche proposée par le cardinal Toumi.
Mais pourtant, sur nos antennes, le lundi 22 octobre dernier, le cardinal Toumi a été clair. Hein, il organise cette conférence juste pour recueillir des idées et les soumettre au président Biya, qui est maintenant réélu, pour organiser ensuite une conférence, une grande conférence, hein, une conférence nationale. Peut-être qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute.
Si on veut lui accorder le bénéfice du doute, ça n'empêche pas qu'on tienne compte de ce que moi j'ai dit. Vous ne pouvez pas être dans une situation où vous voulez divorcer et on ne tient pas compte du fait qu'il y a deux partenaires dans le ménage. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on va décider, ce que les anglophones vont décider en tant que groupe, si on arrive déjà à faire l'unanimité de tous les anglophones, ils doivent mettre ça en œuvre avec la partie francophone. Mmh. Si la partie francophone ne se reconnaît pas, il n'y aura jamais de solution objective.
Voilà, c'est la fin de ce débat sous l'arbre à palabre, un débat consacré à l'actualité politique au Cameroun. Nous avions analysé avec nos trois invités les résultats proclamés le lundi 22 octobre par le Conseil constitutionnel. Les invités qui ont aussi livré leur analyse par rapport à la suite du processus électoral, l'avenir démocratique du Cameroun, les pistes pour sortir de la crise qui secoue les deux provinces anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Merci donc à Madame Edith Kabang-Wala, présidente du CPP, Cameroun People's Party. Une candidate qui est arrivée sixième sur 23 candidats. C'était lors de l'élection présidentielle de 2011. Et cette année, Madame Kabang-Wala n'a pas pris part au scrutin du 7 octobre. Merci aussi au professeur Joseph Vincent Tunda Ibodé, professeur de sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2, SOA. Il est aussi directeur du Centre de recherche d'études politiques et stratégiques à Yaoundé. Merci enfin à Maître Edgar Alain Nyengue, juriste, avocat au barreau de Paris. Éric Topona à la présentation de ce débat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même studio pour un nouveau numéro du magazine Sous l'arbre à palabre. Alors, chers invités, encore une fois, merci.
Merci.
Merci aussi.
Merci à tous les auditeurs.
Voilà, et à la semaine prochaine.